moins par la suite. Monsieur Goët.
Oui, merci. Merci. Je voudrais revenir sur un propos que vous avez tenu, monsieur le président Maizen, et qui concerne la loi de 2005. Je voudrais rendre justice, je crois qu'il faut rendre justice à la collectivité associative et aux parlementaires français. Dans l'article 1er de la loi du 11 février 2005, la question qui se rapporte à la production du handicap est clairement indiquée. Et très rapidement, un petit point d'histoire. Quand il a été décidé de changer la loi, on sentait à quel point le poids de l'héritage, et en particulier de la classification de Wood, allait persister. Et à l'époque, j'étais délégué interministériel aux personnes handicapées, et il se trouve qu'une équipe québécoise était en France, l'équipe qui a inventé le processus de production du handicap. Et on les a invités à venir. Et ils ont expliqué noir sur blanc que le handicap était le produit de l'interaction entre les déficiences que la personne peut avoir et l'inadaptation de son environnement. Et le mérite de la loi de 2005, c'est dans son article 1er de reprendre cette... Alors je ne vais pas polémiquer avec vous, mais simplement par souci de justice envers les travaux qui ont été accomplis à l'époque, notamment par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Alors depuis, on va plus loin dans l'application de tout ça, mais il y a un fondement législatif important et il faut vraiment y recourir quand précisément les pouvoirs publics sont défaillants dans ce qui doit être apporté à la personne handicapée. Et d'ailleurs, la concrétisation, elle est dans le titre de la loi. Alors, on ne parlait pas à l'époque d'autodétermination, mais on parle de participation. Et de mon point de vue, l'apport majeur de la loi de 2005, c'est celui-là. C'est la notion de participation. Pour le reste, je suis totalement d'accord avec vous. Et sans doute faut-il encore aller plus loin. Mais quand même, rendons cette justice aux parlementaires français et à la collectivité associative. Merci.
Le 11 février 2005 était mauvaise. Je disais que la convention de l'ONU de 2006 allait plus loin dans la définition et la prise en compte des droits de la personne handicapée que ne le faisait la loi française de 2005, c'est pas pour ça qu'elle est mauvaise. S'il s'agit de recherche et de recherche appliquée, il y a un sujet par contre qui mériterait dans notre pays une recherche importante. C'est comment se fait-il que nous proclamions d'excellentes lois que nous nous révélons incapables d'appliquer et de faire entrer dans la réalité. Et là, je crois que le rôle de la FIRA, en essayant de montrer comment point par point dans des situations particulières, on peut faire rentrer la loi ou la convention dans la réalité, que ce soit dans notre pays ou ailleurs, est important. Parce que ce qui est très frappant, je le vois dans d'autres domaines, et le comité le voit dans beaucoup d'autres domaines, c'est que la loi sur l'emploi des personnes handicapées, elle a 25 ans. Elle a rempli la moitié de son objectif. Ça suggérerait qu'il faut un demi-siècle pour remplir l'objectif. La loi de 2005 sur la scolarisation des enfants en situation de handicap, elle a 9 ans. Elle n'a pas rempli son objectif. Donc, il y a deux problèmes, je crois, et c'est là que cette articulation, je dirais, entre la partie scientifique et la partie éthique et la partie appliquée peut avoir une valeur pédagogique au sens profond du terme. C'est comment fait-on pour faire rentrer des principes quand ils sont énoncés et proclamés, donc qu'une société, au fond, se retrouve autour de ces principes, comment fait-on pour les faire rentrer dans la réalité et ne pas, au fond, être dans une situation qui est assez étrange où la loi Amartya Sen dit qu'un droit sans accès au droit n'est pas un droit. Et donc, je crois qu'un des objectifs de la FIRA, c'est d'essayer de voir comment, dans le contexte particulier qui est le nôtre, on peut faire en sorte, on peut montrer comment, à tout le monde, à toute la société, comment, au fond, chacun peut participer au fait de faire rentrer les droits dans la réalité.
Oui, finalement, M. Goët, vous avez évoqué le processus de production du handicap. Mais du coup, je crois qu'il faudrait dire ici que Patrick Fougérolas avait été justement dans notre comité scientifique et pour des raisons personnelles n'a pas pu s'y maintenir. Mais en tout cas, l'apport qu'il nous a justement donné dans nos travaux a été tout à fait important.
Je crois, pour poursuivre là-dessus, ce que j'essayais de dire au début, c'est que au cours de nos réunions et à propos de l'évaluation de ces projets dont la diversité est très grande, je veux dire, nous construisons nous-mêmes l'idée que nous nous faisons de ce qu'est une recherche appliquée qui permet, je crois que c'est ça qui est quand même important, on peut le répéter, qui est appliquée non pas dans le sens où elle permet d'appliquer quelque chose, où elle est jugée comme appliquée dans la mesure où elle a permis à des personnes de s'approprier leurs droits, de s'approprier leurs relations avec la société. Donc on est en permanence à la fois en train d'évaluer des projets et en train de remettre en question, au fond, la vision que nous avons des meilleurs moyens qu'il y a d'appliquer ces principes dans la réalité.
Oui, merci. Je suis Jean-Luc Simon. Je préside le groupement français des personnes handicapées, qui est un bénéficiaire, un bénéficiaire en tout cas, qui travaille en ce moment à réaliser une recherche appliquée, financée par la FIRA. Et nous en sommes très contents. Cette recherche porte sur comment mettre en valeur les savoirs profanes, c'est-à-dire ce qu'ont pu apprendre les personnes en situation de handicap, de leur autonomie, de la réalité qu'ils découvrent, pour pouvoir le transmettre à leurs pairs, à leurs semblables, à ceux qui doivent tout apprendre d'une nouvelle situation et qui n'y connaissent rien. Et qui sont aussi désemparés que nous serions tous face à une paraplégie, à une hémiplégie et à une situation que nous ne connaissons pas. Donc cette participation, elle est essentielle, elle est au cœur de ce qui est le pivot de l'autonomie. C'est ce que nous essayons de démontrer avec l'aide de la FIRA. La participation est au cœur de la loi, c'est évident. La participation est au cœur de nos débats. Elle doit maintenant être au cœur de nos pratiques. Comment la participation, aujourd'hui, maintenant, entre nous, peut-elle agir? Où sont les profanes qui ont des savoirs à nous enseigner, à nous transmettre aujourd'hui, par exemple? C'est cela qu'il faudrait encore faire des efforts supplémentaires pour pouvoir y arriver. La participation, les objectifs, nous avons tout réuni pour réussir. Il nous manque maintenant le petit allumette en supplémentaire qui fasse que la participation ne reste pas simplement au centre de la loi, mais qu'elle devienne au cœur de nos pratiques et de nos façons de faire. Et ce changement des façons de faire, il doit se prendre en route maintenant, pas demain, pas dans une recherche, maintenant, parce que les choses changeront à cause et grâce à cette participation-là qui nous amènera le gasoil dont nous avons besoin pour justement allumer les petits éclairages de génie qui vont nous éclairer, qui vont nous rassurer sur la meilleure façon possible de vivre avec des personnes qui ont à surmonter des restrictions de capacité et qui par là sont quelque part meilleures que nous parce qu'elles ont réussi ce que nous ne savons pas encore faire, c'est-à-dire comment franchir toutes ces barrières qui nous empêchent de vivre tel que nous sommes. Avec nos réductions, avec nos réussites, mais avec nos réductions. Souvent, les réussites chez les personnes en situation de handicap, elles ont du mal à être identifiées. C'est celle-là, au contraire, que nous sommes réunis pour magnifier. Merci.
Merci à vous. D'une certaine façon, votre projet, c'était la pérémulation. D'une certaine façon, ce que retient, d'une manière générale, comme projet la FIRA, c'est de la pérémulation, parce qu'en demandant que les personnes handicapées et que les associations soient partie prenante du projet, c'est en fait ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles apportent aux chercheurs, qu'est-ce que les chercheurs leur apportent. Et donc c'est une pleine participation à la conception et à la réalisation du projet.
Oui, Patrick Devavrin, psychiatre, je m'en excuse. C'est une question pour madame...
Pardon, oui, pardon. Un élément de réponse complémentaire sur la notion des savoirs profanes, qui est une question absolument essentielle. Pour la FIRA, son comité scientifique et éthique, mais son conseil d'administration, la citoyenneté des personnes qui ont à faire face à un handicap n'est pas limitée de telle sorte qu'elle serait exclue de la participation à l'aide à leurs pairs, aux autres personnes. Non seulement ils ne sont pas exclus, mais même leur savoir profane est particulièrement apprécié. On a deux lignes de conduite. Ne jamais limiter l'intervention d'une personne qui a à faire face à un handicap à ce handicap qui la concerne directement, parce que sa citoyenneté indique qu'elle est potentiellement compétente dans tous les champs et non pas simplement dans ce champ-là. Mais à l'inverse, bien évidemment, ne jamais l'exclure. Maintenant, et il faut insister sur ce point, la FIRA fait de la recherche. La recherche se nourrit de tous les savoirs. Elle ne peut pas ne pas partir des savoirs tels qu'ils existent. Le savoir profane
des personnes qui ont eu à surmonter, cela a été dit également pour l'association des cérébro-lésés, qui ont eu à surmonter des difficultés, il est totalement essentiel. Mais il va s'intégrer à un projet de recherche, il ne va jamais le résumer. Le projet de recherche ne va jamais se limiter à la prise en compte des savoirs profanes. Les savoirs profanes sont des savoirs totalement éminents et, comme tous les autres savoirs, indispensables pour monter de beaux projets de recherche.
Non, je ne sais pas si je parle maintenant. Oui. Alors, c'est une question pour Madame Peretti. Je suis psychiatre, donc je m'en excuse.
Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, parce qu'on a du mal
oui,
à vous entendre.
Vous m'entendez bien ? Bon, voilà. Je voudrais savoir si vous êtes mis en relation avec les équipes qui s'occupent de démence frontotemporale, parce que ce sont des troubles du comportement qui sont très similaires aux cérébro-lésés. Et vous avez une équipe en France qui est particulièrement pointue sur le domaine, qui a une très grande expérience, qui est l'équipe de Florence Pasquier et de Florence Lebert au CHU de Lille. Je ne sais pas si vous êtes en relation avec eux.
Non, on n'est pas en relation avec eux, mais c'est vrai que moi, je suis amenée aussi à côtoyer des patients qui ont ce type de démence, puisque je suis psychologue au CHU d'Angers en neurologie. Oui. Et c'est vrai que je constate effectivement des similarités. Par contre, c'est vrai qu'on envisage, qu'on a déjà transféré l'étude qu'on est en train de faire, qu'on a déjà mis en place d'une autre façon avec des sujets qui présentent la maladie d'Huntington et qui présentent aussi des problématiques neurocognitives associées à des troubles psychocomportementaux.
Donc, oui. Enfin, y a peu d'équipes expertes dans ce domaine.
Oui.
Et je vous recommande tout particulièrement celle de Lille qui a 20 ans de métier dans le domaine et qui, je crois même, a une unité spécialisée pour accueillir ce type de patients. Voilà, c'est tout ce que je.
Oui, bah merci.
Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait d'autres mains qui se levaient. Je suis parfaitement désolé de ne pas pouvoir satisfaire toutes les curiosités, mais le cocktail est là pour ça. Vous savez que c'est un moment d'échange. Je voudrais que vous remerciez à nouveau très, très chaleureusement l'ensemble des intervenants qui se sont prêtés au jeu. Merci beaucoup à tous les 7.